Le rendez-vous du libraire. Le rendez-vous du libraire, une émission proposée par la librairie de la Trinité et animée par Agathe de Grey.
Chères lectrices, chers lecteurs, deux semaines déjà que nous a quitté un très haut de la littérature, laissant derrière lui, comme tout trésor, quantité de feuillets, de romans, de poèmes, comme les miettes divines du repas très frugal évoqué au début du plâtrier siffleur. Christian Bobin, bien sûr, auteur de Petites choses, humaines et poétiques, humaines car poétiques, poétiques puisqu'humaines, manquera, mais il nous a laissé trace, des mots polis, taillés, arrachés à l'humus du quotidien et rendus à la contemplation pure, sans perdre leur glaise pour autant. Comme hommage, nous vous proposons aujourd'hui cette chronique consacrée au travail de Christian Bobin, le poète. Probablement pas de plus bel objet pour découvrir Bobin que l'édition Quarto de Gallimard, publiée en octobre, « Les différentes régions du ciel ». C'est un livre, une somme légère, bleu morceau de ciel, un livre qui ne contient qu'une voix, qu'une mélodie, celle de Christian Bobin. Œuvre choisie, immanquable parfois, le très bas, ou une petite robe de fête. Œuvres inconnues aussi, des inédits, comme l'eau des miroirs. Texte précieux, lui aussi inédit, placé à l'ouverture de l'ouvrage, une préface de la main de Christian Bobin, vous attend également, qui parle du Creusot et de la cristallerie de la Reine. Émaillé de citations de ses œuvres, comme autant d'enluminures venues illustrer son propos. Il y a plusieurs façons de lire les différentes régions du ciel. On peut prendre les 1024 pages dans le bon sens, les étudier patiemment, de la première à la dernière, s'imprégner lentement, profondément, de l'œuvre de Christian Bobin. On peut aussi l'ouvrir au hasard, se laisser prendre entre deux pages et constater, d'une session à l'autre, que le plaisir du texte y est toujours égal, que tous les mots de l'ouvrage se lisent avec le même plaisir, la même justesse, la même poésie. À force, ça devient comme un jeu avec l'auteur. On ouvre le livre, au jugé, pour le prendre au dépourvu par surprise entre deux paragraphes. Mais son style jamais ne lui fait défaut. Les différentes régions du ciel est un livre destiné à être relu, arpenté encore et encore, traversé, redécouvert. 1024 pages, pas une seule en trop, pas une seule moins forte. Le poète ouvre son œuvre sur un suicide, un stylet qui taille les veines au lieu de fendre des pages, la clôt ensuite sur un adieu, une prise de congé discrète et sans emphase, calme et pleine d'interrogations encore. Les différentes régions du ciel après la mort de Christian Bobin vient comme un baume, une parole, un petit mot jeté en l'air à ceux qui voudront l'attraper au vol, un petit mot jeté aux hirondelles du rat de la page, comme Bobin surnomme les lecteurs. Plonger dans les œuvres choisies de Christian Bobin, c'est le retrouver un peu, prendre le temps de se quitter et de se retrouver aussi, par la même occasion. Ça parle d'écriture, de lecteur, du sens de la poésie et du sens du monde. Allez, je vous offre un morceau de ciel. La vie souterraine, texte de l'ouvrage, une petite robe de fête. Elle écrit des carnets de toutes les couleurs, des encres de tous les sangs. Elle écrit le soir, ce ne serait pas possible autrement. Après les courses, le bain donné à l'enfant, les leçons à faire réciter. Elle écrit sur la table desservie, loin dans le soir, tard dans la langue. Quand l'enfant l'abandonne pour la menue monnaie d'un sommeil ou d'un jeu. Quand ceux qu'elle nourrit ne savent plus rien d'elle. Quand elle est à elle-même, hors d'atteinte, seule, devant la page. Misérable devant l'éternel. Beaucoup de femmes écrivent ainsi, dans leur maison gelée, dans leur vie souterraine. Beaucoup qui ne publient pas. Ma vie me fait souffrir. Ma vie me tue le jour. La nuit, je tue ma vie. J'attendais d'être reine. Je ne sais plus que mendier. Je voulais vivre de bel amour, je meurs de sales blessures. Et pourtant je suis là, indemne. Je souffre de ma vie intacte, dedans ma vie ruinée. Je meurs de trop de champs, dans trop peu de feuillage. Elle va dedans sa vie comme une aveugle. Elle va dans l'écriture comme un printemps. De temps en temps, elle vous montre un carnet. Chacune des phrases vous touche, comme un fleuret. Leur pointe acérée pénètre à merveille dans vos yeux. Ce qui vous touche est un mystère. C'est là et c'est ailleurs. Un jour, elle écrit. Un autre jour, elle n'écrit plus. Ce deuxième jour dure des années. Ce temps est amené par l'enfant dernier-né. Elle renverse le lait des encriers, elle lange l'enfant dans les pages blanches, elle lui cède toutes ses phrases. Il en fait des ombres chinoises, des cris, des rires. Il en fait n'importe quoi. Elle lui donne son bien le plus précieux, sa voix. Il en fait un jouet docile, merveilleusement souple. Elle s'attache à l'enfant de tout ce qu'elle lui donne. Les carnets, la solitude, le silence, tout. Elle contemple l'étendue chaque jour croissante des fatigues. Elle sourit. On pourrait même parler de bonheur, une espèce singulière du bonheur, une manière d'être heureuse qui n'empêche pas la souffrance, qui ne gêne pas le désespoir en cours. Un roseau sur le bord des eaux noires. Elle est dans le souci incessant de l'enfant, dans la veille insomniaque, elle est dans ce souci pour tous ceux qui l'approchent. C'est une façon apprise dans l'enfance, c'est une nature seconde, plus forte que sa nature. C'est sa façon d'aimer, elle n'en connaît pas d'autre. D'un amour de pure perte. D'un amour survivant à toute fin. D'un amour survivant à l'amour. L'enfant grandit, fortifié d'elle, les premiers pas, les premiers mots, les heures d'école. Alors, elle revient au carnet. Doucement d'abord, comme à la dérobée. Fautive, furtive. Dans les premières pages, elle colle des photographies de l'enfant. Puis, un peu plus loin, des fragments de peinture. Avec parfois une phrase d'un livre aimé, un galet dans l'eau vive des lectures. Les images se font plus rares, les phrases s'agrandissent. Toujours, des citations qu'elle corrige parfois, elle dit « rectifié ». Ça, c'est du Paul Éluard rectifié. Et ça, de l'Apollinaire, rectifié aussi. Elle change un mot, exile une virgule pour atteindre à plus de fraîcheur. La convalescence se poursuit, la greffe prend bien. Elle renoue peu à peu avec sa voix, d'abord couverte par celle des autres. Enfin, elle n'écrit plus qu'elle-même. Pour clore cette chronique, un tout petit livre, comme un poème d'un seul tenant, en plusieurs pages, frêle, jaune vif, comme un papillon. Le plâtrier siffleur est un drôle de livre, aigu et affûté, une charge de mots portée contre la techné, l'art du pratique, de l'accélération. Les poètes sont des contemplateurs, nous a dit Bobin, des lents, des médiocres, des humbles, des petits, pas efficaces pour dessous, antagonistes donc des merveilles pratiques promises par le progrès technique. Prendre le temps de la tâche et le temps de la vie sont pour Bobin deux fois la même chose. Mais les hommes n'aspireraient-ils plus qu'aux pratiques? Comme une courte dissertation au style parfait, le plâtrier siffleur nous porte dans une réflexion profonde sur la place du pratique dans nos existences. Plus pratique, c'est en l'occurrence plus rapide. Ou alors avec moins d'efforts. Aller vers le plus pratique, c'est toujours faire l'économie de quelque chose. L'économie du temps, ou alors de douleur, peut-être, dans l'espoir d'épargner quelque chose d'autre. La vie, peut-être. Mais, semble dire Christian Bobin, il ne faut peut-être pas chercher à épargner sa vie, car elle est partout, dans les petites tâches et les grands travaux. Au moyen de l'éloge des petites tâches propices à la méditation, de la figure du plâtrier siffleur, Christian Bobin construit peu à peu une opposition entre la poésie et la technique, poussée à son extrême. Mais il y a dans la poésie un art de l'affûtage, de l'élagage. La poésie serait tendre le langage au maximum. Ne reconnaît-on pas ici un mouvement semblable à celui du progrès technique, un souci de l'économie? Alors, la poésie aussi serait-elle recherche du progrès, accélération vers le sens, comme des fleurs qui s'ouvrent en vitesse démultipliée? Le plâtrier siffleur porte ses réflexions sur l'économie, mais au fond, économie de mots et économie de moyens sont-elles la même chose? Nous disions que le pratique, le progrès technique, vise l'épargne de la vie. Comme si on acceptait que les tâches du monde, les métiers, n'aient plus de sens, ne soient plus que des parenthèses dans la vie, la vraie, des parenthèses gonflantes qui enflent tant qu'en définitive c'est la vie qui s'y retrouve, mise entre parenthèses, pour un temps indéfini. La poésie, dit Bobin, fait l'inverse. Elle cherche le sens, lentement, patiemment, partout. Elle est la mélodie sur les lèvres du plâtrier, elle est la vie qui a lieu partout et tout le temps, mais qu'il faut apprendre à débusquer comme un animal sauvage qu'on ne voit que du coin de l'œil. La poésie n'est d'ailleurs en définitive pas économe de mots. Elle n'a pas pour but d'être allégée, amputée de tout ce qui pourrait l'alourdir. Elle est le langage tendu au maximum, gonflé au maximum, chargé de sens au point de la rupture, et non pas le langage étiré au maximum, famélique, asséché. Et si le sens retrouvé s'apparente à de la vie reconquise, alors la poésie est bien l'inverse de la technique. Elle réintroduit la vie dans la tâche, comme on réintroduirait une créature fabuleuse dans son biotope d'origine. Réintroduire la poésie, réintroduire le sens, réintroduire la vie, jusqu'à entendre le chant de tous les plâtriers siffler.
On me dit que je suis paresseux, que je ne fais que ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. On dit que je me repose, je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds, franchement désolé. La vaisselle envahit l'évier, et le linge déborde du panier. J'ai les cheveux sales, je suis barbu, mais je m'en vais, mon café bu. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds.
Sur cet hommage, je vous quitte. N'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Christian Bobin dans notre librairie, rue de la Trinité, à Toulouse. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous du libraire.